À voix nue, Caroline Brouet.
Laure Adler, journaliste, autrice, féministe.
Quatrième épisode, la scène de théâtre et l'atelier de création. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
On a compris dans les trois premiers épisodes à quel point vous avez fréquenté tous les milieux. La télévision, la radio, l'Élysée, l'édition, puisque vous citiez Plomb, mais il y a aussi eu Payot, De Noël, Les Puffs, Le Seuil, Grasset. J'aimerais ce soir que vous parliez comme spectatrice engagée, pour reprendre les termes de Raymond Aron, que vous aimez bien, pour évoquer vos exercices d'admiration et votre passion pour les autres, les intellectuels, les artistes, de tous bords d'ailleurs, en comprenant ce qui vous meut. Et d'ailleurs, c'est ma première question. Qu'est-ce qui vous meut ? Est-ce que c'est apprendre des autres ou est-ce que c'est transmettre aux autres ?
D'abord apprendre, ensuite être ému. Troisième moment, si je peux transmettre mon amour, ma rare qualité, c'est d'être banal. C'est-à-dire que ce que je ressens profondément comme étant quelque chose d'important, par exemple une lecture importante ou une mise en scène importante ou une chorégraphie qui m'a émue jusqu'aux larmes, je m'aperçois que souvent d'autres personnes que moi ressentent la même chose. Si jamais on peut transmettre et élargir le cercle d'électrices et d'électeurs, des amoureux du théâtre, des amoureux des arts plastiques, de tout ce qui peut nous faire bouger intérieurement, je considère que c'est un privilège, oui. J'essaye de le faire du mieux possible.
Alors parlons des arts, pour commencer, si vous le voulez bien. Peut-être que de tous les arts et de toutes les maisons, s'il y en a un et une que vous aimez particulièrement, c'est bien le théâtre et la salle de théâtre. Est-ce que c'est celui-là que vous préférez, le théâtre, de tous les arts ?
Je crois que oui, même si dans le théâtre, j'inclus la performance, j'inclus la vidéo.
Le spectacle vivant, disons.
Voilà, j'inclus la danse, qui est vraiment une discipline essentielle et fondamentale qui m'intéresse de plus en plus. Alors que je vieillis, oui, c'est la salle de théâtre. Parce que quand je rentre dans une salle de théâtre, j'ai l'impression d'être une parmi les autres. J'ai l'impression de former une communauté dans le noir. J'ai l'impression d'attendre quelque chose avec les autres. Et ce qui va se passer sur le plateau va être reçu, non pas par moi individuellement, mais aussi par toutes les personnes qui sont en train de vibrer au même moment. Et même quand la pièce de théâtre me déçoit, et même quand le metteur en scène que j'aime beaucoup fait une mise en scène que je trouve plus fragile, il y a quelque chose qui se passe, parce que même dans l'attente qui reste inexplorée et une attente qui reste non exaucée, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait vagabonder. Et être au théâtre, c'est penser tout le temps. Mais penser de manière libre, penser de manière associative, un peu comme vous êtes sur le divan du psychanalyste, penser de manière vagabonde, pas forcément vouloir ordonner vos propres pensées. Et le théâtre, le noir, la communauté permet tout cela, en tout cas me permet tout cela.
C'est amusant d'ailleurs que vous évoquiez le spectacle vivant, sachant que sur la table, vous n'avez rien disposé à part des colliers de coquillages qui reviennent de Tahiti. Mais devant vous, pour écrire les notes, quand vous en avez, ou pour dessiner des petites étoiles au moment où vous parlez, eh bien, vous avez mis un livret, le livret du dernier spectacle que vous avez vu, qui est un spectacle de danse de Ohad Naharin. Donc, c'est pas pour rien que vous avez écrit un livre qui s'appelle Tous les soirs. C'est que vous allez quasiment, en tous les cas, tous les soirs au spectacle.
Agnès Varda disait qu'une journée sans arbres, qu'elle rencontrait dans ses promenades, était une journée foutue. Eh bien, moi, je dis, une journée sans théâtre, le soir, est une journée foutue.
À ce point.
Ah ouais, j'en ai vraiment, ça devient pathétique, hein, c'est un besoin.
Ça a commencé il y a longtemps, hein. Je crois que c'est votre grand-tante qui vous emmenait au théâtre dans les
oui,
années 50.
Ma grand-tante m'a emmenée, comme toutes les
française.
Petites filles, voilà, à la Comédie Française. Mais ça a été une fois. Oui, parce que j'habitais pas en France, donc ça a été une fois. Alors, comme tout le monde, les dorures, les lumières, la troupe, le texte qui était de Molière, etc. Tout ça m'avait fortement impressionné. Mais c'est plus tard, c'est vers l'âge de 17 ans que moi je suis partie à mon premier festival d'Avignon. Et c'est là que l'amour...
En deux chevaux?
Ouais, en deux chevaux avec un copain. Et c'est là que l'amour du théâtre a commencé et qu'il est resté arrimé à l'intérieur de moi-même.
Vous vous souvenez du premier spectacle que vous avez vu à Avignon? Quand vous êtes arrivée en 67?
Oui, bah c'était le couple Jean Villard, Pierre Boulez, Pierre Henry, le trio. Et je me souviens de Messe pour le temps présent, je me souviens de la cour d'honneur. Je me souviens aussi d'une vibration commune qui agitait et animait tous les spectateurs. Et puis le théâtre, c'est pas seulement le moment où on voit le spectacle. On ne consomme pas un spectacle, on le vit. Mais c'est le moment où on l'attend, avant. C'est tout un cérémonial où on s'installe, où on va dans les cafés pour discuter avec les copains de ce qu'on attend, de cette joie d'être ensemble. Ensuite, on s'installe. Ensuite, on vit le moment du spectacle. Et ensuite, on vit l'après. Qu'on dit after, maintenant, est aussi important que ce qui a précédé. Parce qu'il y a une forme de communion, il y a une forme de réflexion collective.
Mais avec qui?
Avec les amis avec qui on est, avec n'importe
C'est-à-dire
qui.
Que vous n'y allez pas seul au théâtre?
J'y vais rarement seul. Mais par contre, je ne sacrifie pas, comme certaines de mes camarades ou certains de mes camarades, à quelque chose qui a beaucoup cours dans le monde du théâtre. C'est-à-dire, quand vous allez par exemple à une première, et les journalistes sont souvent invités aux premières, il y a toujours un pot avec le metteur en scène ou la metteuse en scène et les comédiens, etc. Moi, je peux pas. Je peux pas parler quand je sors du théâtre. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'être silencieuse, j'ai besoin de réfléchir. Je peux pas faire de la petite parlotte. Ça m'atteint trop, quoi. Ce qui se dépose à l'intérieur de moi est trop important pour que je puisse l'énoncer tout de suite. J'en serais bien incapable.
Ce que vous éprouvez avec le spectacle vivant, vous ne le ressentez pas au cinéma, par exemple? C'est le fait d'être seul parmi d'autres, la communion d'une salle, l'émotion qui se dégage, au sens très large d'ailleurs, d'un film.
Je vais beaucoup au cinéma. J'ai eu la chance d'être présidente de plusieurs jurys de cinéma, dont notamment un festival de cinéma très très important en France qui s'appelle le Festival du Réel, du documentaire. J'aime particulièrement les documentaires, même si j'adore les grandes fictions et si je suis une consommeuse chaque nuit de séries. Donc je regarde beaucoup, beaucoup d'images dans chacune de mes journées, chacune de mes nuits. Je vais très souvent au cinéma. Je pourrais passer ma vie dans un cinéma, dans le noir. C'est d'ailleurs le point commun avec le théâtre. Mais le théâtre, il y a quelque chose de supplémentaire. Il y a un supplément d'âme qui est très difficile de transcrire, qui est très difficile de transmettre, mais qui est peut-être, comme Claude Régis, qui a été un de mes maîtres, le disait, c'est du vivant qui s'offre à du vivant. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un esprit de sacrifice. Vous savez que le théâtre a été inventé par les Grecs pour pouvoir délier et dénouer les conflits, pour pouvoir exaucer et exhorter toutes les tensions vers une sorte de disparition. Donc le théâtre comme un lien à la démocratie et comme une sorte de solidarité entre chacun des membres qui constituent les spectateurs, c'est quelque chose de très fort.
C'est d'ailleurs sur le théâtre que vous avez écrit, plus que sur le cinéma, puisque vous avez consacré un ouvrage intitulé, comme je le disais tout à l'heure, « Tous les soirs », qui est apparu en 2016 chez Actes Sud, un ouvrage qui est à la fois fait d'entretien et comme une déclaration d'amour au théâtre. On y retrouve un certain nombre de metteurs en scène que vous avez rencontrés pour des entretiens et qui constituent sans doute votre panthéon personnel. On peut peut-être dire quelques mots de quelques-uns. Christian Loupa, Ariane Mnouchkine, Angelica Lidl, Peter Brook, Claude Régis, Joël Pomera, il y a des jeunes et des moins jeunes, Roméo Castellucci, Christophe Warlikowski, Thomas Joly, Julien Gosselin. On voit aussi la dimension européenne dans ses choix.
Le théâtre, il est mondial, oui. Et ici, en France, on a la chance de pouvoir inviter au Théâtre de l'Odéon, qui est un théâtre européen, par définition des œuvres qui viennent de toute l'Europe. Et il y a des metteurs en scène qui viennent des pays de l'Est, qui nous ont donné des leçons magistrales sur ce que ça veut dire faire du théâtre, et qui d'autre part remettent en cause l'idée même du théâtre pour la faire évoluer dans ses formes mêmes. Mais en France, on est très très doués, et les filles sont très très douées. Et il y a une jeune, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Effectivement, j'ai des maîtres auprès de qui je vais me ressourcer régulièrement, systématiquement, etc. Mais il y a aussi tous les jeunes qui débarquent. Parmi ces jeunes, il y a toute une nouvelle génération de filles qui ont à peine 30 ans et qui inventent un rapport à la salle, inventent un rapport à la forme théâtrale, inventent un rapport au féminisme, inventent un rapport au corps, nous font ressentir au plus profond de nous-mêmes l'évolution de notre propre société.
Julie Deliquet, Pauline Bureau.
Voilà, toutes ces filles-là. Et d'autre part, elles parlent de la génération de leurs parents qui a le même âge que le mien aujourd'hui. Et donc, elles me font bouger aussi parce qu'elles me disent des choses autres que mes propres filles sur la manière dont le rapport mère-fille a pu évoluer, sur le rapport au corps, sur la liberté des mœurs, sur le respect dû aux filles, etc. Donc le théâtre est aussi un laboratoire de problématiques sociétales. Et là, en France, en ce moment, malgré un système que je trouve encore terriblement perclus de rhumatisme, c'est-à-dire qu'il est trop institutionnalisé et vous avez des directeurs de scène conventionnés qui bougent très peu, et ce qui fait que vous avez une génération qui est aux rênes de la direction théâtrale en France et qui, de facto, même s'ils ne le veulent pas, empêche des jeunes générations de pouvoir surgir dans le paysage théâtral et diriger eux-mêmes de grandes institutions, ce que je souhaite personnellement, ce qui n'est pas du tout appliqué. Ce qui a été appliqué par les Allemands, par exemple, à la Schaubühne, on a donné les rênes de la Schaubühne à un jeune homme de 22 ans. Et ben, il s'est très bien débrouillé. Et il continue à très bien se débrouiller. Donc aujourd'hui, on a peur aussi de l'âge.
Thomas Ostermeyer.
Ouais, avec Thomas Ostermeyer, qui continue d'ailleurs à être un metteur en scène européen d'une immense envergure. Mais je veux dire par là qu'en France, on a un peu peur des jeunes parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez responsables pour voir diriger des institutions subventionnées par le ministère de la Culture. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Moi, j'aimerais bien que ces générations prometteuses puissent avoir plus accès au plateau, ce qui est extrêmement difficile pour eux.
C'est un discours de politique culturelle que vous avez là, Laure Adler, et pourtant vous avez refusé d'être ministre de la Culture en 2016 quand François Hollande vous l'a proposé. Est-ce que vous avez jamais eu envie de jouer, de devenir comédienne vous-même? Et est-ce que vous aimez vous mettre en scène?
Non, j'ai jamais eu l'idée d'être comédienne. Une fois, j'ai fait quelque chose sur Marguerite Duras, en lisant des textes de Marguerite Duras à l'intérieur de ce théâtre de l'Odéon, que j'adore parce qu'on me l'avait proposé, que c'était un anniversaire de Marguerite Duras. Mais j'ai lu des textes devant un micro, comme n'importe quelle lectrice. Déjà pénétrée, ne serait-ce que trois quarts d'heure, sur ce plateau qui, pour moi, est un espace sacré, allumé par les lumières de la scène, avec l'équipe de techniciens que je connais bien au Théâtre de l'Odéon, c'était quelque chose qui m'a fait battre le cœur pendant des semaines avant et qui m'a empêché de dormir. Mais j'ai jamais pensé être comédienne, j'ai jamais voulu être dans la lumière, et je pense que c'est très bien de ne pas être dans la lumière. C'est peut-être un peu lâche ce que je dis, mais j'ai jamais...
C'est pour ça que vous essayez de mettre les autres dans la lumière. Par oui. Vos entretiens, par vos biographies, par vos textes avec les autres.
Oui, je trouve que je suis faite pour ça.
Laure Adler, dans le bouquin qui est sorti en 2024 et qui rassemble un certain nombre de vos écrits, il y a une partie, qui est la quatrième partie, qui s'intitule « L'atelier de création ». Et dans l'atelier de création, on trouve le théâtre, les livres, le cinéma, la radio, l'art, notamment avec Christian Boltanski, mais aussi la mode. Vous terminez même ce recueil par la mode. Pourquoi donc ?
C'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est celui qui a...
C'est pas une honte, hein ?
Non, c'est celui qui a fait le découpage de ces textes, qui s'appelle Nicolas Hidier, et qui a pensé que la mode, c'était intéressant, que je me suis beaucoup préoccupée de la mode, que j'ai aimé beaucoup de créatrices et de créateurs de mode, que je suis amie avec certains d'entre eux. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a un mois et demi, un des créateurs de mode que je connais depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire, je crois, depuis 40 ans, parce que moi, je déteste faire les boutiques, je déteste essayer. Moi, je vais toujours, et comme je suis très vieille, ça fait des décennies que je vais toujours aux mêmes endroits acheter les vêtements. Et donc, l'un d'entre eux m'a invité à lui remettre sa Légion d'honneur. Je lui ai dit, mais t'es complètement dingue, là, tu prends des risques. Il me dit, non, on verra bien. Et donc, devant une assemblée de créateurs de mode, il a fallu que je me tape un petit discours sur la mode devant tous ces gens qui sont des grands prescripteurs de mode, des grands spécialistes de mode. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement sympa comme milieu. La mode, d'ailleurs, avait été introduite dans le monde de la culture par Jacques Lang, très vite, quand il a été nommé ministre de la Culture. Et je pense qu'il a raison, parce que c'est un domaine d'excellence où, là aussi, les Françaises et les Français excellent, et où des jeunes générations sont en train d'inventer des rapports au corps, parce que la mode, c'est pas simplement...
Elle dit quelque chose de nous, donc voilà. Elle dit quelque chose de vous. Qu'est-ce qu'elle dit de vous ?
Eh ben, le rapport au corps. Le rapport au corps, le rapport à la liberté du corps, le rapport à la manière de se sentir bien dans son corps sans se sentir offensé par des regards de macho, des regards de concupiscence, la possibilité de marcher dans les rues. C'est Yves Saint-Laurent, d'ailleurs, qui avait dit qu'il avait créé ses premiers défilés de mode avec les pantalons pour que les filles puissent marcher rapidement dans les rues et qu'elles puissent refléter justement ce qui est l'apanage des femmes, c'est-à-dire des femmes qui travaillent pour l'écrasante majorité d'entre elles. Donc aujourd'hui, la mode, ça demeure encore un champ de créativité absolument exceptionnel.
C'est quelque chose que vous tenez de votre mère, hein, cet amour de la mode, ce plaisir de vous habiller d'une certaine manière, non ? Elle s'habillait beaucoup, elle était coquette, votre mère ?
Ma mère était coquette, sans plus, hein, elle n'aimait pas non plus tellement se mettre en valeur. Il faut dire qu'elle était tellement belle que... Et je ne crois pas que je l'idéalise en disant cela. Elle était tellement belle qu'elle n'avait pas besoin de se préparer à être belle. Mais elle a enseigné à ses trois filles que justement, la beauté, ça n'existait pas, d'une part, qu'une femme ne devait pas être belle, une fille devait être naturelle. Il s'agissait pas qu'on se maquille avant d'avoir 18 ans, il s'agissait pas qu'on porte les cheveux longs avant 16 ans, il s'agissait pas qu'on se mette des robes courtes avant 17 ans. Enfin, moi, j'ai vécu dans une éducation extrêmement stricte.
Vous êtes bien rattrapé après avec vos mini-jupes, hein.
Oui, mais justement, peut-être en réaction par rapport à cette éducation. Mais je veux dire par là que... J'ai pas vécu auprès d'une mère qui m'a enseigné que le féminin, c'était mieux que le masculin, et qui m'a pas enseigné non plus que le féminin, c'était forcément l'appât de la beauté, l'appât de la séduction. Pas du tout, c'est même le contraire.
Laure Adler, vous nous accueillez aujourd'hui avec des lunettes assez épaisses, assez grandes, gris foncé, vous avez souvent des verres fumés. C'est une coquetterie, les lunettes ? Vous en avez à peu près 250 paires.
C'est parce qu'en vieillissant, je pleure. Je ne sais pas ce que je pleure, quelle est la signification de ces larmes, mais si je n'ai pas un écran entre mes yeux et l'air, je pleure. Donc, c'est une défense naturelle, les lunettes. Alors, en même temps, effectivement, je suis une dingue des lunettes, oui. J'en ai beaucoup, beaucoup, Et j'en achète en sachant que je ne les mettrai jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est une forme de défense, justement.
Vous parlez de vos larmes. À côté des biographies, vous avez écrit des récits personnels, hein, Laura Adler. Il y a eu La Voyageuse de nuit, dont on parlera dans l'émission suivante. Il y a eu Immortel. Il y a Tous les soirs, sur le théâtre, qui peut être considéré comme un livre personnel, comme si vous écriviez des dialogues de théâtre, au fond. Et puis il y a À ce soir. À ce soir, vous ne l'avez pas écrit avec des lunettes noires, mais vous l'avez écrit dans le noir, peut-être même pour éviter de pleurer. À ce soir, c'est le récit de la perte d'un enfant.
Oui, c'est un texte que je n'ai jamais lu. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est quelque chose d'un fantôme de moi qui l'a écrit. Il s'est écrit tout seul, à la suite d'un accident. Accident qui n'était pas arrivé par hasard, puisque c'était une date anniversaire très importante et très grave et très bouleversante pour moi. Mais je l'ignorais ce matin-là, quand l'accident a surgi. Et dans la nuit suivante, au milieu de la nuit, quelque chose a commencé à s'écrire. Et puis a continué à s'écrire toutes les nuits. Et voilà, et je n'ai jamais lu ce texte. Après l'avoir terminé, j'en connaissais hélas la fin, mais je ne savais pas quand viendrait la fin du texte. Quand la fin du texte est survenue, c'est un petit tas de papier. Et parce que je pense aux arbres quand j'écris. Et moi, j'écris pas directement sur l'ordinateur. J'écris d'abord à la main, quel que soit le texte, et après, je tape sur l'ordinateur. Et j'écris tout petit, petit, d'ailleurs, au risque de pas pouvoir me relire. Et donc, j'avais un petit tas de papier. Je savais pas ce que c'était. Je me suis trimballée dans mon sac pendant des mois, presque un an et demi. Et puis un jour, j'ai demandé au père de mon fils, à mon compagnon, Alain, de... Je l'ai déposé sur le lit et je lui ai demandé s'il avait la possibilité de lire ce texte. Et je suis partie. Et je suis revenue le lendemain matin. Et c'est lui qui m'a dit, écoute... Ce texte, il faut le transmettre d'abord à nos autres enfants. Et puis peut-être, faudra que tu réfléchisses à le transmettre à d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Donc, j'ai remis le texte dans mon sac. Ça a encore duré des mois et des mois, peut-être un an encore, un an et demi. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi... Un soir, en fin d'après-midi, j'ai mis ce texte dans une enveloppe, un texte manuscrit, donc, très illisible. Et je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai déposé chez Gallimard. Et j'ai mis un prénom et un nom sur une enveloppe. Le prénom et le nom d'une éditrice que j'aime beaucoup et à qui je voue une totale confiance.
Teresa Crémisi.
Absolument. Et le lendemain, elle m'a rappelé. Et elle m'a dit, faut le publier. Je lui ai dit, écoute, je ne veux rien savoir. Elle m'a dit, très bien, je vais m'occuper de tout. Je lui ai dit, oui, mais y compris à la sortie, je peux pas en parler. Donc là, c'est la première fois que je vous en parle. Elle m'a dit, je m'occuperai de tout. Et elle s'est occupée de tout.
Et vous n'avez jamais lu ce livre ?
Non, mais ce livre a été très important. D'abord parce que j'ai reçu beaucoup de courriers. Et que ce courrier, je l'ai lu, pour le coup. J'y ai répondu. Et puis, ça a été très important pour moi, personnellement, parce qu'un jour, j'ai reçu une lettre d'une femme psychiatre qui me demandait de venir un dimanche soir dans un cinéma du bas des Champs-Élysées pour venir parler de ce livre. Je l'ai appelée. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, je viens de fonder une association pour les parents endeuillés. Je voudrais que vous parliez de votre deuil à d'autres personnes après la projection d'un film que je venais de voir et qui m'avait bouleversé et qui m'avait tiré des larmes pendant des heures et des heures, qui s'appelle La Chambre du Fils.
De Nanni Moretti.
Et donc je suis allée dans ce cinéma à l'invitation de cette dame et dans la salle qui était très grande, il n'y avait que des parents qui avaient perdu un enfant. Et moi, il a fallu que je parle. Et à la fin de cet entretien, j'ai dit à cette dame, est-ce que je peux faire quelque chose pour cette association ? Elle m'a dit, c'est très compliqué de rentrer dans cette association, mais peut-être je vous expliquerai. Et depuis, je suis dans cette association. Donc, voilà, ça qui s'appelle « Apprivoiser l'absence ». Pour moi, ça a été déterminant. Finalement, j'aurais pas publié le texte, je n'aurais pas connu l'association. Donc, je n'aurais pas connu ce que nous pensons à minima devoir faire, c'est-à-dire essayer d'aider les personnes qui sont dans une grande détresse après le deuil d'un enfant.
À ce soir, Laure Adler, ça a été le premier de ses récits personnels, puisqu'ensuite, il y a donc eu Immortel, Tous les soirs, La voyageuse de nuit. Quel est le statut de ces récits-là par rapport à vos autres écrits, aux biographies, à ce moment où vous laissez parler les autres, alors que là, c'est un jeu qui parle quand même?
Ça vient comme ça. J'ai pas d'idée particulière en tête. Par exemple, pour La voyageuse de nuit, je sais que j'avais travaillé depuis des années et des années, que j'avais beaucoup d'enquêtes que j'avais faites, j'avais beaucoup lu de livres, j'avais beaucoup rencontré des spécialistes de l'âge, j'avais des kilomètres de documentation. Et un matin, je me suis dit, dans 10 ans, je continuerai la documentation, parce que par définition, l'âge, c'est un sujet tellement important.
Ça, c'est l'universitaire en vous qui parle aussi.
Peut-être. Donc, je me suis dit, il faut que j'ordonne. Et quand j'ouvre un chantier d'écriture, ce que j'aime, c'est le moment de la recherche. J'aime moins le moment de l'écriture, parce que c'est un moment plus difficile de confrontation avec soi-même. Et donc, le temps de la recherche, effectivement, ça fait penser au temps de l'étudiante en moi et du temps que j'ai passé à la Bibliothèque nationale où j'allais tous les jours m'enfermer pour lire des archives, pour lire des livres, pour prendre des notes. Et le lendemain matin, je recommençais et ça aurait pu durer une éternité. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, surgit en disant puisque tu arrives à un certain âge, il faut peut-être aussi, sans parler trop de toi, que tu puisses classer, trier toutes les infos que tu as accumulées. Je me parlais à moi-même, quoi. Accumulées à l'intérieur de ton enquête pour tracer un chemin, quoi.
Vous nous direz dans la dernière émission demain, Laure Adler, si ce que vous dites là, des récits personnels, c'est aussi vrai dans le cas des biographies et des sujets, c'est-à-dire essentiellement des femmes dont vous avez choisi de raconter les vies. Marguerite Duras, Hannah Arendt, Simone Veil, Françoise Giroud, Charlotte Perriand, Françoise Héritier, Agnès Varda, à commencer par la première d'entre elles qui est toujours votre muse, Michel Perrault. Nous parlerons donc des femmes et du féminisme. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Laure Adler, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.